France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. J'ouvre cette édition par un appel de la commune de Thérondel à la pointe nord de l'Aveyron qui cherche un nouveau pharmacien. Son pharmacien va partir en retraite. Et cette petite commune, très typée, de 400 et quelques habitants, produit d'ailleurs un fromage du même nom. Mais elle conserve surtout des services, dont une maison de santé qui jouxte la pharmacie propriété de la commune. Elle nous fait savoir qu'elle propose, cette commune, une aide à l'installation et offre un loyer à tarif préférentiel. Si vous êtes intéressé, c'est un vrai coup de pouce. Il faut écrire à la mairie. Vous avez trouvé l'adresse. Je vous le donne quand même, c'est mairie-de-thérondel@guanadou.fr. Pour l'instant, nous revenons au département de l'Eure où nous rejoindrons tout à l'heure Nicolas Stoufflet avec une grande mobilisation des lycéens du lycée agricole de Tourville-sur-Ponte-de-Mer afin de réaliser un son et lumière où ils vont tout prendre en charge autour d'une valeur essentielle à la survie de l'humanité, l'eau. Et puis dans la seconde partie, Jean-Louis Laville ouvrira une nouvelle chronique consacrée à l'économie solidaire.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Isabelle Rival, bonjour.
Bonjour Philippe.
Merci pour vos courriers, bravo pour l'entreprise que vous menez. C'est une aventure avec vos élèves du lycée agricole privé de Tourville-sur-Ponteau-de-Mer. Alors vous êtes professeur d'éducation socio-culturelle. Cet établissement qui est sous contrat avec le ministère de l'Agriculture dépend du Conseil national pour l'enseignement agricole privé. Parmi les partenaires, il y a le programme Erasmus+, et le réseau Bienvenue à la ferme. On devient entrepreneur agricole à l'issue de la formation ?
Pas tous nos élèves deviennent entrepreneurs agricoles. Certains, bien entendu, se destinent à des professions agricoles, mais nos territoires ont beaucoup changé de visage. Donc nous avons des jeunes qui vont vers les métiers du commerce agroalimentaire et agrofourniture, des élèves qui vont aller vers des carrières plutôt tournées vers le cheval, et d'autres vers l'agriculture, l'ingénierie agricole, beaucoup de destinées différentes vers les assurances, les banques. C'est très vaste maintenant, les formations que nous proposons.
Et donc, l'établissement va fêter ses 70 ans l'année prochaine. Et à cette occasion, vous préparez avec les élèves, mais avec des bénévoles, d'autres personnels, d'anciens élèves et des parents, l'écriture d'un spectacle qui va s'appeler Le bruit de l'eau.
Oui, tout à fait. Donc, ce spectacle est écrit et est préparé par tous les élèves principalement, et bien entendu, ils sont encadrés par des adultes et par une association avec qui nous collaborons depuis maintenant 20 ans, qui s'appelle l'AVEC, qui se trouve, comme on dit chez nous, de l'autre côté de l'eau, donc de l'autre côté de la Seine, une équipe de bénévoles qui est spécialiste des sons et lumières, des spectacles de grande ampleur, donc qui ont tout un tas de compétences au niveau de la gestion de la cavalerie, puisqu'il y a des chevaux, des artifices, ils ont de nombreux costumes, de décors, voilà, des compétences diverses que nous n'avons pas au lycée. Donc avec Yves Mogart en particulier, le metteur en scène et un historien, nos élèves peuvent depuis le début de l'année écrire leur spectacle autour du thème de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui nous tenait à cœur, que ça soit l'eau. Il y a 10 ans c'était la terre et cette année c'est l'eau.
Et votre courrier m'a intrigué, Isabelle, parce que vous dites à propos de vos élèves, ils se fabriquent des souvenirs.
Tout à fait. Notre grande ambition et notre objectif, c'est que on ouvre cette boîte à souvenirs tous ensemble. Adultes, anciens, retraités du lycée, nos copains de l'AVEC, du Pays de Caux, etc., qu'on crée ensemble quelque chose qui soit une histoire commune. L'eau, c'est un défi commun, c'est un enjeu commun. Pour nos jeunes, bien entendu, et ça, ils en sont très conscients, nous sommes dans un environnement extrêmement privilégié, de par sa beauté, mais aussi par sa fragilité. Ce sont des jeunes qui sont très liés à leur territoire et à leur environnement. Et donc voilà, donc on va créer ce souvenir ensemble avec tous ces élèves et tous ces étudiants que nous avons la chance d'avoir au lycée. Et ça marche super, ils sont super investis, ce qui est une belle réussite déjà pour nous.
Ils sont à tous les postes du spectacle, mais avant cela, on comprend qu'il y a une conscience, on va dire, éco-citoyenne qui se développe dans l'esprit de vos élèves.
Tout à fait, nous avons... en classe, avec certaines classes, et avec d'autres, ça dépend, puisqu'on nous allons de la quatrième au BTS, donc c'est pas du tout les mêmes âges. Travailler sur l'eau dans la peinture, on va travailler une semaine de découverte du territoire sur justement la fragilité de cette eau. Mmh. Ce sont des jeunes qui sont issus souvent du milieu agricole, et l'eau, ils s'en servent pour abreuver leurs bêtes et leurs cultures, les arbres poussent avec de l'eau. Nous sommes dans un lycée où il y a des sources, le chauffage est fait avec l'eau de ces sources. Il y a énormément d'eau, un grand étang, des douves autour d'un château, etc. Et c'est cette eau-là qui va être mise à l'honneur. Les sciences, la connaissance, la richesse de ce bien précieux. Et donc, ils cherchent, ils grattent, ils vont trouver des croyances, des mythes. L'eau a aussi, dans notre région de Pont-de-Mer, et nos partenaires nous soutiennent dans ce projet, était aussi la base de l'industrie, des tanneries, des papeteries, des filatures. Donc tout ça est évoqué par ce spectacle à tous les niveaux, avec nos élèves bien entendu, toujours avec eux.
Ouais, je dis souvent que l'eau va devenir un peu le pétrole de l'avenir, c'est-à-dire que elle se raréfie, elle peut devenir chère, elle peut créer des fractures sociales au sein des différents peuples du monde, et elle devient de plus en plus précieuse. Il faut en avoir conscience, et je pense que ça commence à s'entendre, ça. Et alors, ça sera représenté dans les spectacles donnés 30 avril et 1er mai l'année prochaine pour les 70 ans du lycée agricole privé de Tourville sur Pont-de-Mer. Vous allez trouver les liens et la préparation. J'espère que vous aurez des vues aussi sur la préparation de ce grand spectacle, cette belle aventure. Merci Isabelle.
Merci beaucoup Philippe.
France Inter, carnet de campagne.
Beuzeville dans l'Eure, 4900 habitants et une association d'habitants justement qui crée timidement en 2017 une boîte à livres. Et devant l'intérêt suscité par cette idée, le collectif voit plus grand en investissant un lieu en centre-bourg propice à de plus amples initiatives solidaires et culturelles. La librairie associative Salon de Thé est inaugurée l'année suivante sous le nom des Pépites. Petite parenthèse quand même, l'association s'est vue refuser une demande de subvention de la mairie et n'a obtenu gain de cause que grâce à l'appui de propriétaires qui ont mis à disposition des agitateurs culturels un local. Une boutique d'artisans est installée dans cet espace afin de réduire les charges de location et d'entretien. Par ailleurs, les bénévoles animent dans ces pépites des ateliers de savoir pratique. Ils soutiennent la vie locale en participant au dispositif Devoir fait du collège de Beuzeville, des aides aux devoirs des collégiens. Et le mot d'ordre de l'association est Ensemble faisons pépiter Beuzeville. Et preuve que cela est possible même sans subvention. Le site c'est lespépites-asso.fr. Dans un esprit similaire, la toute petite commune de Saint-Germain-des-Angles. Alors là, on tape bas, 180 habitants, vient de gagner dans son ancienne école un espace de vie sociale, de culture et de partage. Il s'appelle le Petit Café. Un P apostrophe, Petit Café, de pays dans l'esprit des bistrots d'antan. Et a priori, les petites mairies, là, sont plus volontaires dans ce genre d'initiative. Jean-Louis Laville, bonjour.
Bonjour Philippe Bertrand.
Une nouvelle chronique solidaire, tous les jeudis en 15, on vous retrouve, vous, titulaire de la chaire d'économie sociale au CNAM, aux arts et métiers à Paris, auteur de nombreux ouvrages. On va parler aujourd'hui de l'économie solidaire. Alors la dernière rubrique était consacrée à l'économie sociale, je reviens quand même à un mot de l'économie sociale. Récemment, enfin il y a quelques années, on a commencé à entendre parler d'entrepreneuriat social. Ce qui a irrité un tout petit peu les défenseurs de l'ESS en disant « mais où est le solidaire là-dedans ?»
C'est ça, il y avait une tradition d'économie sociale, on en a parlé la dernière fois, et cette tradition d'économie sociale, elle a eu un peu de mal à se diffuser dans l'ensemble de la société, et c'est à la fois en continuité et aussi un peu en critique de l'économie sociale qu'est apparue l'économie solidaire. Et puis ensuite est venu l'entrepreneuriat social. Mais restons un instant sur l'économie solidaire, qui est apparue en fait dans la fin du 20e siècle, et à bien des égards, on a dit, l'économie solidaire est apparue vers les années 1970. En fait, c'est peut-être plus une résurgence qu'une émergence. C'est-à-dire que, finalement, est-ce que l'économie solidaire ne renoue pas avec ce qu'était le projet pionnier, on en avait parlé dans la première rubrique, de ce qu'on appelait l'associationnisme, c'est-à-dire cette volonté d'affirmer des relations basées sur la solidarité démocratique. Ce qui est intéressant dans les expériences d'économie solidaire, c'est qu'à la fois, elles cherchent à mettre en place des activités économiques, et de ce point de vue-là, elles sont dans le prolongement de l'économie sociale, mais elles cherchent aussi à avoir une une portée politique. Et là, effectivement, il y a une différence dans la façon dont elle se situe par rapport à l'économie sociale traditionnelle. Je prendrais deux exemples. Dans les années 70, toujours, donc, le mouvement écologique apparaît, et il y a un certain nombre de gens qui disent on ne peut pas simplement critiquer le système, il faut proposer d'autres solutions.
Souvenez-vous, René Dumont.
Voilà. René Dumont, c'était il y a bien longtemps, et pourtant les questions qu'il a posées restent posées encore aujourd'hui. Et c'est ce qu'on a entendu aussi autour du Forum social mondial. Résister, c'est nécessaire, mais aussi construire. Et je pense que c'est dans cet esprit qu'il y a eu, par exemple, tout un ensemble d'expériences de d'éoliens ou de solaires citoyens qui se sont mises en place sur les territoires, où les gens se sont pris en main pour essayer de trouver ces solutions alternatives.
Mais la première explication ou illustration de l'économie solidaire, Jean-Louis, c'est le commerce équitable.
C'est le commerce équitable, c'est aussi un changement dans les services. Il y a eu des associations de personnes en situation de handicap, il y a eu aussi des féministes qui ont dit finalement dans l'état social, il y a du paternalisme résiduel, hein, c'est-à-dire qu'il y a encore une façon de considérer les usagers un peu comme des bénéficiaires, mais pas comme des véritables co-constructeurs des services qui leur sont destinés. Et là, il y a une volonté de construire de nouveaux services. L'une des premières manifestations, c'est ce qu'on a appelé les crèches parentales, c'est-à-dire des lieux dans lesquels les parents peuvent participer à l'accueil de leurs jeunes enfants. Et on voit bien que, à la fois, il s'agissait de mettre en place des services, mais très vite aussi de négocier de nouvelles politiques publiques. Hein. Et au bout de quelques années, ces crèches parentales, ces lieux d'accueil avec participation parentale, ont réussi finalement à modifier les politiques, par exemple les contrats enfance des caisses d'allocation familiale. Donc il y a la volonté à la fois de faire participer en interne, mais aussi d'intervenir sur l'action publique en même temps que de fournir des services. Et c'est ça qui fait un peu la spécificité de l'économie solidaire.
Et ce qui prouve la longévité maintenant de l'économie sociale et solidaire dont on parlera à nouveau bientôt.
Voilà. Après, c'est vrai que au moment de la résurgence, si l'on emploie ce terme, il y a eu la volonté de marquer des différences. Et puis ensuite, on voit bien qu'il y a eu aussi un regroupement pour essayer d'exister. Et là encore, face aux politiques publiques, hein, qu'on a essayé de voir comment est-ce que économie sociale, avec sa tradition, et économie solidaire, avec sa résurgence, pouvaient s'allier dans un certain nombre de cas.
Des indications et des références bibliographiques dans le cadre de cette chronique solidaire de Jean-Louis Laville à nos pages d'émission. Merci Jean-Louis. Avant de nous séparer, un coup d'œil aussi chez les voisins de Seine-Maritime et en particulier à Rouen, qui participent depuis 5 ans pleinement au mois de l'économie sociale et solidaire, le mois de novembre. Et à ce titre, la ville prépare une semaine de rencontres et d'échanges. Elle empiète aussi sur le mois de décembre parce que ça commence le 30 novembre au 6 décembre, programme donc qui s'ouvre samedi par un marché alternatif, place Barthélémy. Le programme se poursuit avec des moments forts. Lundi, un ciné-débat sur les nouveaux métiers de l'agriculture urbaine. Mardi, une conférence gesticule et titrée « La démocratisation culturelle et l'ascension sociale par la culture ». Jeudi, je vous soumets aussi la conférence « L'innovation sociale au service des territoires » avec Jean-Claude Gruffat, ancien président du Biocop. Et puis vendredi, un apéro débat sur climat et énergie. Vous pouvez vous inscrire à ces événements au lien qui est à nos pages d'émission. La semaine prochaine, nous serons probablement dans le département de la Sarthe.